Ça fait maintenant 3 ans que je publie du contenu sur Internet, que j'y partage mes réflexions, mes coups de cœur, mes projets aussi parfois. Ça avait commencé avec un podcast, puis des posts, puis quelques articles, des newsletters. Et j'ai même tenté de la vidéo, et d'ailleurs j'y reviens un peu. Mais toujours finalement, c'est toujours le même format en fait. À chaque fois c'est scripté, c'est écrit, et je prends beaucoup de plaisir à l'écriture, parce que j'aime choisir les mots, j'aime avoir une démarche très raisonnée. Bien évidemment, cette approche a aussi quelques limites, puisque évidemment, ça empêche d'être agile, d'être fluide, de rebondir sur l'actualité, et puis ça coupe un peu, on va dire, une forme d'authenticité. Donc, j'avais envie d'un autre format, et j'avais envie d'un quelque chose qui soit beaucoup plus libre, où je me sens beaucoup moins bridé par la longueur d'un poste ou parce que je peux me permettre de dire sur les réseaux. Et donc j'ai imaginé ce podcast que j'ai appelé Le Débrief, je pense, sur lequel je vais essayer de rebondir régulièrement sans forcément des rendez-vous chaque semaine. Mais voilà, quand j'aurai des choses à dire, je prendrai le micro et je vais revenir sur l'actualité du secteur, mon actualité, sur les coulisses de comment de Bistroberta, de Briscard, de comment tout ça s'articule. Et puis, pour moi, c'est aussi l'occasion de me dire que y a plein de nouvelles réflexions que je vais pouvoir approfondir, préciser, nuancer, des choses que je ne peux pas toujours faire. Si vous ne le savez pas, j'écris quand même beaucoup pour apprendre, pour savoir ce que je pense. Et l'écriture a vraiment cette vocation chez moi très utile pour accoucher de ma pensée. Et donc, évidemment, au moment où j'accouche, bon, je fais tout un tas de choix, mais j'explique pas ces choix, j'explique pas pourquoi je pense ce que je pense. Et donc, je pense que ce genre de format, beaucoup plus spontané, je prends un micro, je me balade, et je vous partage mes réflexions, me semble plus adapté. En tout cas, je vais essayer, je tente. Si l'aventure me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez, hein. Je vais publier ça quelque part, vous pourrez mettre vos commentaires, votre avis, et on verra bien ce qu'il y en a. J'ai quand même pris quelques notes sur les sujets que j'aurais aimé aborder aujourd'hui, avec ce nouveau format. J'expliquerai peut-être un jour pourquoi est-ce que je fais ce format, il y a plein de raisons qui me plaisent. Mais je pense que pour l'introduction de ce podcast, c'est pas trop le moment. Je préfère aller directement à l'essentiel et puis on répondra aux questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je suis hyper transparent, ça ne me dérange pas du tout de partager l'arrière de pourquoi je fais les choses. Peut-être qu'en introduction, en tant que premier podcast, en tant qu'épisode 0, c'est peut-être pas l'idéal. Donc bref, je vous ai préparé plutôt au programme de revenir sur le remaniement ministériel, pas vraiment pour parler de politique, mais pour parler de notre secteur, évidemment, puisque Aurore Berger n'est plus notre ministre, on va dire. J'avais prévu de vous partager ma semaine avec quelques éléments, peut-être importants d'un point de vue Bistroberta, d'un point de vue aussi Briscard, voir comment tout ça s'articule, parce qu'évidemment, c'est le début de l'année, donc j'ai pu faire le bilan 2023, et j'ai pu réfléchir à ce que j'aimerais faire cette année. Et puis, enfin, je voudrais approfondir une réflexion sur le tout thérapeutique. J'ai rebondi sur un post cette semaine, d'une fille que j'aime bien en plus, hein, j'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'elle fait, et elle nous incitait à prendre un café, parce que ça a des vertus thérapeutiques. Et même si elle a raison sans doute en soi, faire des choses fait du bien, voilà. De là à mettre une étiquette, un cachet thérapeutique, me semble donner le mauvais sens à ce pourquoi il faut faire les choses. Et donc j'aurais voulu approfondir cette idée. Et j'avais prévu une rubrique lecture de la semaine, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas. J'essaye de lire beaucoup, autant que je peux. La plupart du temps, c'est des choses quand même assez ennuyantes. C'est des articles, c'est des recherches, c'est des choses dont j'ai besoin pour créer mes argumentaires ou parce que des clients ont besoin d'un point un peu plus précis, d'un éclairage un peu différent ou pour mes propres recherches, voire un peu plus loin. Mais parfois aussi, je lis des choses qui peuvent être plus facilement partagées. Et donc, j'avais prévu de vous partager quelque chose. J'aimerais juste que ce podcast ne dure pas trop longtemps. Donc, si j'ai pas le temps cette semaine, eh ben, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Au revoir, Madame la Ministre. C'est le premier point que je me suis noté. Le truc intéressant, vous le savez certainement, hein, Aurore Berger, qui a été la ministre ces 6 derniers mois en charge des personnes âgées, est partie, je crois, au ministère à l'égalité homme-femme. Enfin bref, rien à voir. Et donc, non seulement elle est partie, mais en plus, on va dire que la partie solidarité qui comprend les personnes âgées, elle-même est rattachée à un grand ministère du travail et de l'emploi. Ça m'a inspiré pas mal de réflexions. La première réflexion que ça m'a inspiré, c'est évidemment, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui depuis 6 mois cherchent à faire copain-copain avec la ministre et qui voient leurs efforts ruinés. J'avais même prévu d'écrire un post avec un mème où je me moquais gentiment d'eux, parce que, bah, vous le savez certainement, moi je suis plutôt anti-politique, hein, je n'aime pas ça, je n'aime pas les politiciens et je crois qu'on n'a rien à attendre d'eux. Mais je sais très bien que c'est pas le cas de pas tout le monde. Donc j'avais prévu plutôt ce post un peu ironique, puis je me suis retenu en me disant, en fait, c'est peut-être plus nuancé que ça. Et c'est le post d'ailleurs que j'ai écrit récemment, je sais pas quand est-ce que vous le verrez, où j'ai vraiment essayé de réfléchir à pourquoi est-ce que Aurore Berger était si appréciée dans nos secteurs. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle a su donner de la considération un petit peu à tout à chacun. Et ça, c'était en fait vachement important. Elle a su donner de la considération, elle a su mettre les gens en mouvement. Et je crois qu'en fait, c'est deux choses qui sont très importantes. Elle a apporté finalement, et c'est ce que je dis dans mon poste, une dynamique, un mouvement et une direction, un espoir quelque part vers où aller. Cet espoir, c'était la loi grand âge. Et cette dynamique, c'était peut-être sa... on va dire son plan bien vieillir, c'était ses apparitions dans les différents salons, c'était voilà, pas mal de choses qu'elle a fait vers les acteurs, et c'était, je pense, assez apprécié. Alors moi, évidemment, j'en ai rien à faire, mais prendre conscience de ça était quand même assez intéressant. Et donc, voilà, je crois que la ministre avait été appréciée parce qu'elle avait su trouver ça. Évidemment, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin d'une ministre pour trouver cette dynamique et cet espoir. Je suis quand même très libéral et je pense que c'est plutôt à nous, c'est plutôt de nous que ça doit venir, et j'en suis même intimement persuadé. En fait, il ne peut y avoir de changement que de celui qu'on porte du terrain. Rien n'arrivera d'en haut, tout viendra de nous, et vraiment c'est ce que je crois au plus profond de moi, et c'est ce que j'incite vraiment tout le monde à penser comme ça. C'est vraiment à mon sens, c'est vraiment très 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 précieux comme manière de voir les choses. Ça impose d'être responsable de ce qu'on, de la situation. Ça ne veut pas dire que tout est notre faute et qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir et que si on se concentre dessus, alors les choses bougent. Et ça, je pense que c'est vachement important d'avoir ce mode de pensée. Je ne saurais pas exactement pourquoi est-ce que je pense comme ça, mais évidemment, c'est comme ça que je pense et c'est comme ça que j'incite tout le monde à penser. Donc voilà. Bon, autre point que m'inspire cette réflexion, je ne doute pas une seconde qu'à l'heure où j'enregistre, il y a déjà tout un tas de personnes qui ont essayé de faire copain-copain avec la nouvelle ministre. Je ne doute pas une seconde de ça. En revanche, je m'interroge toujours sur la pertinence de cette démarche. Je vois bien une pertinence à l'échelle individuelle. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui essayent de se placer, qui essayent de faire savoir qu'ils aimeraient travailler plus intensément et être payés pour cela. Mais j'ai quand même, je m'interroge quand même sur la pertinence de, dans la stratégie de communication, de marketing, de tout ce qu'on veut, de se dire un selfie avec la ministre, ça va m'aider. Mais bon, bref, évidemment que certains sont déjà repartis. Dernière réflexion sur le sujet. C'est la question du rattachement au ministère du Travail, qui, ma foi, est en fait, pour moi, plutôt une bonne chose. Je m'explique. Le secteur a besoin... j'apprends rien, en fait. On a une pénurie de main-d'œuvre. On a des grosses difficultés à recruter. ça me semble assez clair que mettre de l'argent sur la table sans être en capacité de l'utiliser pour recruter, bah, ça sert absolument à rien. Et donc, se dire que c'est un secteur qui doit recruter, qui a besoin de main-d'œuvre, et qu'on est donc rattaché au ministère de l'Emploi, bah, ça me paraît pas complètement déconnant d'un point de vue très, très personnel. Donc voilà. Ça, c'était la dernière réflexion là-dessus. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Et bah, c'est pas mal, c'est un peu plus... Je suis un peu moins rapide que je pensais. Peut-être essayer d'accélérer. Autre nouvelle dans ma semaine, cette fois-ci, pas une semaine plutôt globale. J'ai fait le bilan de l'année 2023 et je pense que cette année 2023, il s'est vraiment passé pas mal de choses pour moi. C'était assez impressionnant. Alors sur le plan personnel, évidemment, puisque j'ai eu un nouvel enfant. Et ça, évidemment, un bébé, ça modifie un peu les choses. C'est mon deuxième. Mais même sur le plan professionnel, c'était ma première vraie année d'entrepreneuriat. Et je fais pas mal d'erreurs, ce qui est assez normal, hein, honnêtement. Même moi, je savais que j'allais faire plein d'erreurs. Et au fur et à mesure que je les faisais, je savais que je faisais des erreurs. Néanmoins, je pense que les erreurs font partie du chemin. Et donc, c'était assez normal que je les fasse. Et il fallait aussi que je les fasse parce que j'apprends quand même beaucoup. J'apprends beaucoup comme ça, en fait. Je me suis vraiment lancé. On va dire dans l'entrepreneuriat, j'aime pas trop le terme, mais parce que j'avais des projets que j'avais envie de donner, auxquels j'avais envie de donner vie. Et donc des projets qui sont pas forcément rentables, qui sont pas forcément des bonnes idées, qui sont pas forcément tout ça. Donc évidemment, j'allais commettre pas mal d'erreurs. D'autant plus que bah, pour pouvoir mener à bien ces projets, ma stratégie était de créer une agence avec Fanny, une agence de recherche utilisateur où on allait aider les entreprises à rentrer dans la tête de leurs clients pour construire des offres vraiment attrayantes, vraiment désirables, les aider dans leur publicité, dans leur marketing. Bref, on avait vraiment cette idée-là. Et ça a plutôt bien marché, hein. Je suis assez content du succès qu'on a eu avec cette offre-là. On a fait full assez vite. Pour vous détailler un petit peu les choses, il faut comprendre que quand nous, on travaille sur une recherche utilisateur, on travaille pendant 2 semaines sur un seul client à deux. Parce que c'est un travail d'empathie qui demande bah, pas mal de temps, en fait. Et donc c'est assez long. Si on y passe 2 semaines sur un projet, ça veut dire qu'on peut faire 2 projets par mois. Donc finalement, on n'avait pas beaucoup de place, et c'était pas si compliqué que ça, de remplir le planning dès le début. Maintenant, là où ça s'est corsé, et c'est aussi pour ça qu'on a cherché à faire différemment, c'est que 2 semaines, c'est le temps qu'il nous faut, théoriquement. C'est le temps qu'il nous faut pour faire notre travail, si on a tous les éléments, si le client répond présent pour les points d'étape, pour les ateliers, pour tout ça. Évidemment, ce qui est possible en théorie n'est pas forcément réaliste en pratique. Et donc, plein de fois, on s'est retrouvé à attendre les clients, soit au début, soit à la fin, soit au milieu. Bref, je crois qu'il y a très peu d'études qui ont vraiment duré typiquement 2 semaines, tel qu'est le temps que nous, on en a besoin pour travailler. Donc nous, on a bien fait notre travail en 2 semaines, si on prend en 10 jours, voilà. Néanmoins, souvent, ça s'est étalé. Et donc c'était plus compliqué à gérer. Cette partie vraiment organisation logistique, c'est pas là où je m'éclate le plus. Et donc, moi, je voulais juste faire des recherches. Cette partie-là m'intéresse un peu moins et est un peu plus embêtante. J'aime moins cette partie. Donc c'est aussi ça qui nous a poussé à réfléchir autrement. Après, quand on s'est lancé avec Fanny, on savait très bien que Briscard, cette agence, ça allait être juste une rampe de lancement. On ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on cherchait un projet différent, où on construisait un produit, ou etc., qui allait nous amener plus loin. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Alors, on n'aurait pas parié sur Bistro Bertha, évidemment, mais quand même, c'est ce qu'on cherchait. Et donc, c'est sans regret qu'aujourd'hui, on met en pause l'activité Briscard. Alors, on n'est même pas tout à fait en pause, on a encore quelques projets, on a encore quelques clients par-ci, par-là. Quand certains projets nous intéressent vraiment, quand c'est des accords qu'on a un peu à l'amiable, parce que c'est des gens qui veulent aussi travailler avec Bistro Bertha, mais qui ont besoin de Briscard. Voilà, il y a des choses qu'on arrive à faire, on peut faire des efforts. Mais dans l'ensemble, Briscard, c'est fini. Enfin, c'est fini. Briscard se met en pause et on se concentre sur Bistro Bertha. Bistro Bertha, c'est bien sûr ça qui a marqué mon année. Hein. C'était le... C'est le gros projet de l'année et ça le sera pour les années suivantes. J'espère. En tout cas, je suis déterminé à aller loin. Je ne vous refais pas toute l'histoire de Bistro Bertha. Je pense que j'y dédierai un podcast. Mais voilà. Je trouvais que c'était intéressant de revenir sur Briscard. Parce que je crois que j'ai même pas mis à jour encore mon profil LinkedIn. Donc je vais encore apparaître en tant que Briscard. Mais voilà. Je suis vraiment sur Bistro Bertha. Bah, depuis quelques mois déjà. Hein. Donc voilà. Autre point qui dit bilan dit aussi plan 2024. Il suffit de voir le nombre de choses que j'ai faites cette année pour comprendre que je ne suis pas capable de me projeter à un an. C'est beaucoup trop loin. Je peux vous dire ce que j'ai envie de faire dans un an. Je peux vous dire que je me vois travailler longtemps sur Bistro Bertha. Je n'ai aucune idée de quoi sera composée ces missions pour Bistro Bertha dans l'année prochaine. En revanche, à l'échelle du trimestre, on voit qu'on a quand même deux gros chantiers. Le premier chantier, c'est un chantier dit de financement, où maintenant qu'on a sélectionné les premiers établissements, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la recherche de financement avec eux. Certains sont bien entamés, d'autres ne sont pas du tout entamés. On a des établissements qui sont, enfin pas du tout, ils le sont, mais très minimement. On a des établissements qui ne sont pas aussi séduisants les uns et les autres pour des financeurs. Donc voilà, il va falloir travailler ça. Et puis on va pouvoir prendre 8 nouvelles candidatures, tout simplement parce que c'est beaucoup plus long qu'on pensait de créer des bistrots. Et donc on doit se retrouver à anticiper beaucoup plus que ce qu'on aimerait faire. J'aimerais vous dire, j'en fais un, je le finis, je passe au suivant. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Il y a un cas de titre d'exemple, hein, le premier avec lequel on a commencé à travailler, c'est pas du tout le premier qui sera fini. donc voilà. Voilà pour la partie Bistro Bertha. Ça c'est un point intéressant. Autre information de la semaine, j'ai fait ma première opération de sponsoring en tant qu'influenceur. Bon, c'est une expérience assez lambda, mais c'est quelque chose auquel je tenais parce que c'est quelque chose qu'on veut beaucoup faire avec Bistro Bertha. On voudrait vraiment que les bistros soient sponsorisés par des entreprises, par des marques, pour les impliquer, pour assurer aussi une construction plus rapide, etc. On trouve que c'est un modèle très sain. Et donc c'est avec cette idée-là que j'ai été voir un potentiel sponsoring et finalement, c'était pas le bon moment pour eux de sponsoriser Bistro Bertha, mais ils m'ont quand même demandé de sponsoriser mes propres postes en nom perso. Bon, c'est une expérience assez lambda, j'ai été payé des cacahuètes. Mais j'avais envie de le faire, c'est quelque chose que je voulais faire. Et ça me force à imaginer des postes qui sont un peu en dehors de mon champ premier. Et plus important encore, parce qu'évidemment, si on vient me voir, c'est parce que j'ai une plume assez comment dire, impolitiquement correct. Voilà, je fais pas trop dans la bienfaisance. Et donc on m'autorise à parler très différemment de sujets. Et donc voilà. Assez intéressant comme expérience. J'aime beaucoup écrire pour les autres. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Mais écrire pour les autres sur moi, c'est la première fois que je le faisais. Et pareil, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, ça reste une expérience assez lambda. Mais voilà, point intéressant. Dernier point de ma semaine, j'ai publié plusieurs choses sur la démographie. Je me suis rendu compte cet hiver qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ne pipent pas grand-chose à la démographie. Même des choses de base. Ils n'ont aucune idée du nombre de vieux en France, de l'espérance de vie, de la différence entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à 80 ans. Bref, plein de choses qui sont basiques et importantes pour comprendre l'évolution de la population, ses enjeux, bref, notre secteur. Et donc j'ai décidé d'y dédier un mardi géronto, qui sera d'ailleurs un jeudi 25-01. Et en fait, je suis assez content de faire un cours. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrais cours comme ça. Mais là, je l'ai vraiment imaginé comme un cours de gens qui détestent les chiffres et à qui ils doivent quand même comprendre quelques chiffres importants. Et donc, j'ai décidé de partir sur 10 chiffres clés importants pour comprendre le vieillissement et ses enjeux. Une sorte d'initiation à la démographie qui permet à tout un chacun d'être plus éveillé sur ces questions. Donc voilà. Sur ce, je m'arrête là pour la partie actualité de ma semaine. Et j'aurais voulu avoir une réflexion aujourd'hui sur la notion de tout thérapeutique. Pour vous mettre dans le contexte, hein, c'est assez simple. J'ai rebondi sur un post il y a 2-3 jours d'une ergo qui disait que accepter le café que les personnes âgées vous proposent parce que faire le café leur fait beaucoup de bien, ça, beaucoup d'intérêt sur le plan thérapeutique. Alors, plusieurs choses, plusieurs niveaux, on va dire, de lecture. Premier niveau de lecture, est-ce que c'est vrai ? Alors, je n'ai rien lu de vrai, et quand on fait une démarche d'impact, on va dire, c'est toujours bien de comparer cette démarche d'impact avec d'autres alternatives. Grosso modo, faire quelque chose fait sans doute beaucoup de bien. Grosso modo, si je prépare le café, je travaille ma mobilité fine. Sur le principe, je suis assez d'accord. Maintenant, la question, si on veut vraiment être dans une démarche d'impact, ça serait plutôt de dire, ok, faire le café a plus ou moins d'impact que d'aller dans une séance de ceci, ou de ça, ou de cela, etc. Ça, c'est le premier point. Sachant que comme il s'agit d'une activité quotidienne, probablement que faire le café, c'est pas mieux qu'une séance d'ergothérapie avec un ergothérapeute, mais probablement que c'est mieux que rien qu'aurait fait finalement la personne si on lui avait dit « Non, reste dans ton fauteuil, mamie, je vais le faire pour toi, le café. » Et donc, sur le principe, oui, il faut pousser les gens à faire des choses. Alors, les pousser, c'est un grand mot. Il ne faut pas aller là. Mais en tout cas, s'ils proposent de faire quelque chose, mieux vaut les encourager plutôt que de leur dire « Non, je vais le faire à ta place. » Voilà, ça, c'est le premier point. C'est pas ce point-là sur lequel j'ai rebondi. Le deuxième point, le deuxième niveau de lecture, c'est le niveau du sens. Quel sens on donne à l'activité que fait la personne, à savoir faire son café ? Et, plus vraisemblablement, quel sens on donne au fait d'accepter de prendre un café avec cette personne ? C'est franchement là, moi, mon point d'alerte, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec l'autrice, hein, accepter les cafés qu'on vous donne, hein, je ferais pas Bistro Bertha si j'étais pas convaincu que ça. Mais non, ce qui me pose un souci, c'est cette idée que accepter le café qu'on vous donne parce que c'est thérapeutique pour la personne. Le « parce que c'est thérapeutique pour la personne », c'est-à-dire qu'on va donner du sens à ce qu'on fait sous un prétexte de bénéfice thérapeutique, bah ça me pose quand même un sérieux problème. Ça me pose un problème parce que, un, on la laisse dans ce statut de malade, c'est-à-dire qu'on accepte le café, pas parce qu'on en a envie, pas parce qu'on se dit que ça lui fera plaisir à cette dame, mais uniquement parce que c'est bon pour elle. Donc on reste dans cette relation, on va dire, malade-soignant, alors que si vous acceptez un café, c'est justement pour essayer de remettre à plat cette relation, et pas pour la réinstituer. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on cherche à que tout soit thérapeutique, hein, comme c'était le titre de ce poste, hein, tout thérapeutique, évidemment qu'on va finir par ne voir dans la personne âgée qu'une personne malade. Et que si cette personne, elle est... Et on la voit que comme une malade, et bah le vieillissement est une maladie, et donc on n'est avec elle que dans une relation de soignant. Donc voilà, ça c'est le point sur lequel je trouvais ça assez dérangeant d'avoir ce côté tout thérapeutique. Mais même si, encore une fois, hein, je suis d'accord avec le fond du message, acceptez des cafés, prenez des cafés avec les gens, c'est très bien. Demain j'espère avoir des Bistro Bertha partout pour pouvoir vous accueillir, prendre des cafés. Et là, quand on a discuté un petit peu avec l'autrice, avec Amélie, elle s'appelle, elle a répondu qu'elle avait manqué de précision et qu'elle disait que c'était surtout valable pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Excusez-moi. Ah, magnifique le décor aujourd'hui. Désolé pour ceux qui ont que le son, mais la vidéo est vraiment très sympa. Mais bref, donc qu'en est-il si on s'adresse à des personnes, disons, qui vont être atteintes de troubles cognitifs? Est-ce que pour eux, c'est pas valable de le faire sous un prétexte de bénéfice thérapeutique? Et bien là encore, je dis non. Je dis non parce que je trouve préférable que le temps d'un café, on lui fasse oublier qu'elle est malade, on passe outre sa maladie et on remet de la vie ordinaire, plutôt que de se dire elle est malade et c'est pour cela que je dois accepter le café. Je passe un petit peu, parce que là il y a du bruit à côté de moi. Je vous reprends dans une seconde. Bon, je trouvais ça sympa pour ceux qui ont la vidéo de prendre la caméra et de me balader avec la caméra. Je suis en train de promener mon chien, il fait très froid, tout est gelé dehors, c'est magnifique. J'adore cette ambiance-là. J'avais pas pensé qu'il y aurait peut-être un peu de bruit. Du coup, je vais voir. J'espère que le son sera quand même potable pour vous. J'espère que cette petite pause ne sont pas trop dérangeantes et que de toute façon, vous êtes en train de faire autre chose à la fois en même temps. Mais sinon, je verrai pour faire mieux la prochaine fois. Et je m'en excuse. Revenons à nos sujets. Encore une fois, cette personne atteinte de troubles cognitifs, pour moi, si on doit chercher à donner un sens au fait d'accepter de prendre un café avec elle, c'est de le faire parce que ça reste un homme, une femme, un citoyen, lambda, normal, ordinaire, et que accepter un café, il n'y a rien de plus ordinaire, en fait. Et donc, lui permettre cette parenthèse de vie ordinaire dans son quotidien de malade, je trouve que ça a plus de valeur que de chercher à donner du sens par le tout thérapeutique. Et encore une fois, je suis d'accord sur le fait que la personne qui vous propose de faire par elle-même les choses, on doit l'encourager à faire, plutôt que dire « attention, c'est risqué, vous allez vous brûler, etc. Je vais le faire à votre place ». Non, surtout pas. Elle a envie de le faire, qu'elle le fasse. Et encourageons ça. Encore une fois, moi je traite du sens que ça donne. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, sur ce niveau 2. Parce qu'il y a un niveau 3, en fait, qui se cache derrière cette notion de tout thérapeutique. Et je l'ai découvert récemment. Je ne l'avais pas découvert avant. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches parce que, bon, bah voilà, on m'a rappelé à mon esprit un vieux concept que j'avais croisé dans mes études de jeunesse, qui est la thérapie institutionnelle, la thérapeutique institutionnelle. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, thérapie institutionnelle ou thérapeutique institutionnelle, je ne sais plus exactement, qui est l'idée que, en fait, tout est thérapeutique, dans le sens où il faut faire en sorte que l'environnement dans lequel est plongé le malade lui serve à des fins thérapeutiques. Alors c'est quelque chose qui a été pas mal utilisé pour moi, plutôt en psychiatrie. J'ai eu un échange hier avec un évaluateur externe qui me dit que non, il y a encore des choses qui sont utilisées aussi en gériatrie, en gérontologie. Et donc, en quoi consiste ce niveau 3, on va dire, d'analyse? Il consiste à dire que finalement, si tout est thérapeutique, alors rien n'est thérapeutique. Et donc, il vise à faire oublier le thérapeutique en faisant en sorte qu'il est mêlé à la vie ordinaire de l'institution. Et ça m'a laissé un peu perplexe, parce que conceptuellement, je suis assez d'accord, en fait. Si on a une personne qui est atteinte d'un trouble cognitif, que transformer son environnement pour qu'il ne paraisse plus institutionnel et que tout soit organisé pour finalement faire en sorte qu'il fasse des choses, qu'il ose, qu'il va envers de la discussion, qu'il essaye de ses mains, etc. Bon, bah, je suis 100% d'accord. J'ai l'impression que, de toute façon, tout le monde est d'accord avec cette idée. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs se fait, et c'est une excellente chose. On n'est plus du tout sur des accompagnements où la personne ne peut plus rien faire parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle a à faire. Donc je suis assez pour. Maintenant, ça me pose quand même une réflexion, qui est que dans notre secteur gérontologie, et mis à part les personnes atteintes de troubles cognitifs, plutôt que de faire du tout thérapeutique ou de la thérapie institutionnelle, on devrait plutôt chercher des solutions non institutionnelles ou moins institutionnelles. Et en disant ça, je suis très conscient que je fais des bistrots en EHPAD. Mais je le fais parce que l'EHPAD est trop institutionnel. Il doit l'être sur un certain nombre de mesures, mais est-ce qu'il a besoin de l'être autant ? Une lecture qui m'a, moi, pas mal marqué jeune, c'est l'institution totale d'Erving Goffman. On n'est pas dans le concept, dans le contexte gérontologique, on est dans le contexte psychiatrique. Donc c'est quand même assez différent. Hein, mais la conceptualisation de l'institution totale, à savoir que l'institution totale est celle qui vise à répondre à l'ensemble des besoins de l'individu, eh ben, on y est quand même beaucoup, beaucoup dans un EHPAD. Et donc on se félicite que aujourd'hui les EHPAD ne soient plus seulement, on va dire, là pour soigner, mais offrent des repas qui soient bons avec un restaurant, offrent des animations qui soient ludiques, etc. Bah, certes, c'est une bonne chose, parce que ça améliore la vie des gens, mais en même temps, on se rapproche de cette institution totale qui veut tout faire en interne et apporter tous les besoins en interne, et au lieu de pousser la personne vers l'externe. Et donc voilà, je pense que le chemin à faire doit être dans les deux sens. Évidemment qu'il y a des personnes à qui il y a besoin qu'on apporte à eux tout un tas de choses, et évidemment qu'il y a des personnes à qui le besoin est plutôt qu'on les aide à aller vers tout un tas de choses. Donc voilà, cette idée de thérapie institutionnelle ou thérapeutique institutionnelle ne m'a pas particulièrement convaincu. En tout cas, j'en vois de sérieuses limites, encore une fois, hormis troubles cognitifs, où d'ailleurs c'est pas vraiment mon expertise. Mais voilà. Sur ce, 32 minutes, c'est beaucoup plus. 32 minutes que je vous parle, c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Alors, je vous propose de s'arrêter là pour ce premier épisode. Je ferai ma lecture de la semaine la prochaine fois. D'ailleurs, j'ai dit beaucoup de fois le mot semaine. C'est vrai que c'est un format que j'imagine hebdomadaire, mais je ne veux pas m'engager sur une régularité. J'en suis. J'ai déjà tellement de choses à faire que m'ajouter un truc de plus, c'est vraiment pas ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs, ce format, si je dois tout vous dire, maintenant que ça fait une demi-heure que vous m'écoutez, est un peu une sorte de procrastination, parce que j'ai eu cette idée, alors que j'ai ressorti mon micro pour faire le montage d'un autre podcast que je procrastine depuis 6 mois. Non pas que le podcast ne soit pas bien, c'est que le montage est très long, il faut faire des découpes, il faut réorganiser les choses, etc. Et donc j'avais juste envie de prendre mon micro et de vous parler, parce que c'est quand même un format que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi, pour que je sache à mon tour ce que je dois en penser, comment améliorer les choses, si c'est un format qui vous intéresse ou pas. Et puis sinon, à très bientôt.